explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, port à bord à l'Evainé. Tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
C'est un univers minéral où tout est affaire de distance, de sécheresse, d'amplitude thermique, de vent et d'incandescence solaire. Le Sahara est le plus grand désert chaud au monde. Il s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, recouvre près du tiers du continent africain. Au regard de beaucoup, c'est un espace vide, recouvert de sable et de dunes, que seules quelques tribus nomades arpentent fugacement. En réalité, le Sahara a vu naître de nombreuses cultures et civilisations, des routes commerciales intensément fréquentées, et ce bien avant que les explorateurs occidentaux décident de s'y aventurer. Alors prenons le temps de découvrir cet endroit que certains connaisseurs considèrent comme le plus grand musée du monde. Aujourd'hui, nous vous emmenons bivouaquer au milieu du Sahara à la découverte de sa géographie, de son histoire et des peuples qui y vivent.
Que c'est beau.
Sur France Inter.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein ? Vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Vous êtes historien. Entre 1988 et 2005, vous avez effectué deux missions culturelles et de coopération à l'ambassade d'Alger. Vous y avez beaucoup appris sur le Sahara et son histoire. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Sahara, le grand récit » aux éditions Belin. Et nous sommes ravis d'entreprendre avec vous cet après-midi la traversée du plus grand désert chaud du monde. Les auditeurs peuvent vous adresser un message via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous irons nous rafraîchir sur les berges du canal du Midi, l'un des plus vieux canaux d'Europe, toujours en fonctionnement. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay et préparée par Sophie Vaux, Mathieu Aoued et Solène Vary.
En entendant la voix aigre et chaude du violon monocorde Limzad des Touaregs, avec sa corde et son archet en crin de cheval et sa caisse faite d'une calebasse fermée par une peau de chèvre, aucun vieux saharien ne peut demeurer indifférent. Dès les premières notes, des sensations et des images surgissent. Le froid nocturne sur un plateau caillouteux du Hoggar. Au-dessus de nous, un ruissellement d'étoiles. Des tentes très basses, très larges, élèvent leur masse noire entre les buissons. Devant l'une d'elles, autour d'un feu, protégé par une paroi de paille, des hommes strictement voilés et de jeunes femmes au visage découvert sont assis à même le sol. L'archet en main, une femme joue et chante.
Le journaliste Pierre Ichac, aux côtés de Touareg, dans le Sahara. Nous étions en 1953. Michel Pierre, le Sahara est pour vous une passion de jeunesse qui ne s'est jamais éteinte hein, d'ailleurs. Vous aviez 20 ans quand vous avez découvert le Sahara. Alors, ce n'était pas en 1953, hein, c'était un peu après,
rien.
Dans les années 70. Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas et qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez découvert ce lieu ?
Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on vient d'entendre, ces grands moments où on racontait le désert, Limzad, le violon monocorde, cet univers qui est aussi porté par toute une littérature d'époque, les grands succès de la Bibliothèque Verte, Joseph Perret, les histoires de compagnies méharistes, etc. Et le cinéma qui a quand même regardé et multiplié les images sur cet univers. Il y a tout un imaginaire français du Sahara. Il faut bien comprendre que, en quelque sorte, sur la longue histoire, depuis le début du XXe siècle, le Sahara algérien en particulier, mais pas que, a été notre conquête de l'Ouest, pourrait-on dire. Le western français, c'est celui de Forsagan, par exemple, et des compagnies méharistes. Donc je pense que je suis quelque part un enfant de ces mythologies. Et puis après, c'est intéressant de passer des mythologies à la réalité ou aux réalités.
Quand vous êtes arrivé sur place la première fois, quelles sont les premières images ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Pas forcément ce à quoi vous vous attendiez d'ailleurs.
Je pense que l'une des premières fois où je suis allé dans le Hoggar, il a plu.
Ouais.
Et comme on a dans notre imaginaire, effectivement, le Sahara existe parce qu'il y a l'aridité, parce que dans certaines parties du Sahara, les précipitations, c'est pas plus de 5 mm par an. Donc on a des vrais morceaux de désert comme le Ténéré, comme le Tanezrouft. Mais le reste du Sahara, et particulièrement les massifs montagneux, dont le Hoggar, reçoivent à peu près un mois de précipitations. Il pleut pendant 40 jours, disons, ou un mois. Et je suis tombé l'une de ces journées, et là, vous voyez cet espace que vous avez vu la plupart du temps en images ou dans des reportages décrits comme totalement aride. Ouais. Vous voyez tout verdir en une journée ou en 48 heures. Et puis en plus, après, ça séchait totalement. Donc, c'est ces variations de paysages, de regards, de couleurs, de lumière qui m'a vraiment frappé. Ouais. Et c'est là que la passion du Sahara m'a pris. Ouais.
Alors, variation de paysage, mais il faut dire qu'il s'étend de façon très importante, hein, je le disais en introduction, un tiers du continent africain est recouvert par ce désert. Faites-nous prendre la mesure de ce lieu gigantesque.
Sur une carte, il suffirait de suivre un peu le tropique du cancer, en fait, qui est une sorte d'épine dorsale du Sahara, depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, où vous avez, comme vous le disiez, ou comme le disait aussi comme le reportage, autour de 9 millions et 10 millions de kilomètres carrés. Donc vous avez cet espace marqué par l'aridité, mais qui n'est pas uniquement composé de dunes de sable, ce sont des espaces de pierre, des espaces de plateaux, avec des sommets importants. On est parfois sur plus de 3000 mètres d'altitude, par exemple au Tchad. Donc nous avons des reliefs très 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 variés, très loin de l'imagerie habituelle que nous pouvons avoir du Grand Désert.
Des reliefs variés, des paysages variés, et d'ailleurs cette étendue que l'on nomme Sahara n'a pas toujours eu un nom unique. Hein. C'est assez tardivement, au 9e siècle, que l'on nomme cette surface comme une entité unique.
Oui, c'est un chroniqueur arabe qui commence à appeler ce mot d'un mot arabe dont les racines signifient désert, vide, et qui a en plus une racine qui évoque la couleur ocre, donc celle-là, des sables. Et peu à peu, on va prendre l'habitude de désigner cet immense désert du nom de Sahara. Mais comme vous dites, c'est à la fois extrêmement dissuasif pour la présence humaine, mais ça a toujours été parcouru, sillonné, très habité à certains moments de l'histoire, un peu moins à d'autres, et aujourd'hui, ça redevient, si on prend dans l'acception, évidemment, saharo-sahélienne. Il faut toujours prendre l'idée du Sahel. Le Sahel, c'est le rivage en arabe, et donc le Sahara étant une sorte de lieu qu'il faut traverser, comme on peut traverser une mer, je pense qu'il faut considérer aujourd'hui ce qu'on appelle le Sahara dans son acceptation globale de Sahara et le Sahel.
Ouais. Est-ce qu'il faut considérer que cet espace est aussi essentiel à la compréhension de l'histoire de l'humanité, avec une préhistoire très riche? Est-ce que le berceau de l'humanité, finalement, c'est pas le Sahara?
Comme le disait l'abbé Breuil, le berceau de l'humanité, c'est un berceau à roulettes. Donc il y a plusieurs berceaux pour l'histoire de l'humanité. Le Sahara, incontestablement, un peu comme l'Éthiopie, est l'un de ces berceaux. Si l'on considère que Toumaï, dont les restes ont été ces vestiges d'un australopithèque remontant à 6-7 millions d'années, appartient à notre lignée, nous sommes effectivement dans une présence humaine très ancienne dans le Sahara, avec là quelque chose qui est attesté au niveau de l'outillage lithique, des premiers outils de la fabrication par les humanoïdes, par l'homme, vers 4 millions, 5 millions d'années, 3 millions, 2 millions. Donc on a de manière continuelle, depuis le paléolithique inférieur jusqu'à la période contemporaine, une présence dans cette région. Alors avec des moments où l'homme n'a plus été là du fait de la sécheresse. Il faut bien comprendre que, par exemple, il y a 20 000 ans, du fait d'une aridité totale, avec un lac Tchad, par exemple, qui était devenu une mare aisément transversale, traversable, eh bien, on n'a plus de présence humaine à ce moment-là, pendant quelques milliers d'années. Et puis, les précipitations étant revenues, l'homme, petit à petit, va revenir, et ce sera la grande période néolithique du pastoralisme qui s'installe au Sahara.
Alors, on peut l'envisager un peu peu comme un vaste musée à ciel ouvert, ce Sahara, qui retrace de nombreuses histoires, comme vous êtes en train de nous les faire entrevoir.
Oui, cette présence humaine qui revient, disons, il y a 6000 ou 8000 ans, fait que nous allons avoir un paysage, disons, de savane relativement riche, avec une faune de girafes, d'éléphants, et puis cette possibilité d'alimentation pour ces groupes qui viennent, qui migrent du nord ou du sud et qui s'installent dans ce qui apparaît comme un petit paradis. On a parlé d'époque bénie de ce moment du paléolithique et surtout des néolithiques suivants, où vous avez pour des groupes humains assez importants la chasse qui se poursuit, les débuts de l'agriculture, les débuts de l'élevage et aussi les débuts de cet art que vous évoquez, donc ce musée à ciel ouvert où nous avons des milliers de gravures et de peintures décrivant cette civilisation d'élevage et de culture.
C'est ça, des peintures rupestres qui ont été découvertes et qui en apprennent beaucoup sur le passé du lieu, comme l'avait d'ailleurs souligné le préhistorien Henri Lotte en 1950.
Rien n'est plus émouvant que de trouver dans des régions désertiques, dans ces lieux souvent inaccessibles, des œuvres d'infini si exceptionnelles. Mille pensées viennent en même temps à l'esprit de ceux qui les découvrent. Mille questions se posent à leur sagacité. Quels ont bien pu être les artistes capables de tant de goût? Qui a pu bien faire tout cela? Et à quelle époque? Lorsqu'on songe qu'il n'y a pas alors âme qui vive à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, le silence qui entoure tous ces sites est encore plus impressionnant. À son corps défendant, on est reporté à plusieurs dizaines de siècles en arrière et sous l'effet de ces peintures qui représentent des scènes pastorales ou bien des scènes de chasse ou de guerre, on vit littéralement au milieu de ces populations archaïques. On les imagine avec leurs troupeaux dans les vallées voisines, à leur verdoyante, et en fin de compte, on fait cette grande constatation qu'il a existé à ces époques reculées de très grands artistes qui égalent ceux des plus grands qu'aient pu donner l'humanité.
De grands artistes, des hommes et des femmes, ont vécu dans ce Sahara verdoyant. C'était il y a un peu plus de 10 000 ans, entre il y a 15 000 ans et 10 000 ans. Le Sahara a été vert. Mais il faut imaginer quoi? Une savane? Il faut imaginer une forêt tropicale? Qu'est-ce qu'il y avait à la place du Sahara?
Oui, c'est pas franchement la Normandie actuelle. C'est plus proche, effectivement, de la savane. Mais une savane arborée, avec... On parle de gravures d'éléphants, par exemple. Ouais. Eh bien, il faut quand même savoir qu'un éléphant, c'est à peu près 150 kilos de nourriture par jour. Donc, il vous faut suffisamment d'espace vert, pourrait-on dire, pour que ces troupeaux d'éléphants puissent vivre et survivre. Donc, nous sommes dans des paysages de savane avec une grande richesse de faune. Et puis, on a l'élevage, on a la cueillette. Et petit à petit, par observation, on va commencer les débuts d'élever des animaux, chasse, culture, élevage, cueillette, et l'une ne succède pas obligatoirement à l'autre de ces activités. Vous pouvez continuer bien évidemment la chasse et la cueillette, commencer les prémices de l'élevage et les prémices de l'agriculture, ensuite la céramique, etc. Donc vous avez tout un processus de culture, de civilisation, de groupe humain, d'un bout à l'autre du Sahara qui se met en place.
Mais c'est aussi intéressant à envisager du point de vue de la végétation et au final d'un territoire qui est devenu aujourd'hui très aride. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire? Forcément, aujourd'hui où on parle beaucoup de changement climatique, de réchauffement, on se rend compte qu'en quelques milliers d'années, un territoire où il y a de la verdure, où il y a un écosystème riche, où il y a des éléphants, où il y a des hommes, des femmes, peut devenir beaucoup plus désertique, aride. Qu'est-ce qui s'est passé en 3000 ans pour que tout ça s'effondre?
Vous avez un certain nombre de cycles climatiques qui sont connus dans l'histoire longue de l'humanité, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, ou qui est beaucoup, beaucoup plus accentué dans cette évolution, et qui sont liés à des phénomènes extrêmement naturels. L'aridité que nous connaissons actuelle dans cet espace saharien commence à peu près il y a 5000 ans, disons, et qui est incessant depuis. Et là, ça ne... Alors, il y a quelques améliorations récente dans la pluviométrie du Sahara, mais globalement, ce processus processus d'aridité que l'on mesure, par exemple, sur des stèles dans l'Égypte historique ou voire dans la Bible, a commencé il y a 4 à 5 000 ans.
Nous partons bivouaquer en plein Sahara avec l'historien Michel Pierre à la découverte de sa géographie, de son histoire et des peuples qui y vivent aujourd'hui. Pour adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
J'aurais l'air d'une froussarde si je vous demande combien d'eau il nous reste.
Non, vous n'êtes pas froussarde, vous avez le sens des réalités.
C'était Imaran et c'était bien et c'était chanté par le groupe Imaran dans le stand d'un bivouac sur France Inter.
J'ai beaucoup aimé le Sahara. J'ai passé des nuits en dissidence. Je me suis réveillé dans cette étendue blonde où le vent a marqué sa houle comme sur la mer. J'y ai attendu des secours en dormant sous mon aile, mais ce n'était point comparable. Nous marchons en versant des collines courbes. Le sol est composé de sable entièrement recouvert d'une seule couche de cailloux brillants et noirs. On dirait des écailles de métal. Et tous les dômes qui nous entourent brillent comme des armures. Nous sommes tombés dans un monde minéral. Nous sommes enfermés dans un paysage de fer. La première crête franchie, plus loin s'annonce une autre crête, brillante et noire. Nous marchons en raclant la terre de nos pieds pour inscrire un fil conducteur afin de revenir plus tard. Nous avançons face au soleil. C'est contre toute logique que j'ai décidé de faire du plein est, car tout m'incite à croire que j'ai franchi le Nil, la météo, mon temps de vol. Mais j'ai fait une courte tentative vers l'est et j'ai éprouvé un malaise que je ne me suis point expliqué. J'ai aussi choisi cette direction pour la seule raison qu'elle avait sauvé mon ami Guillaumet dans les Andes. Elle était donc devenue pour moi confusément la direction de la vie.
Extrait du roman « Terre des hommes » d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Guillaume Gallienne dans son émission « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter. Michel Pierre, auteur de « Sahara, le grand récit » aux éditions Belin, est notre invité. Alors parmi les auteurs merveilleusement inspirés par le Sahara, Antoine de Saint-Exupéry figure en bonne place.
Oui, parce que « Terre des hommes », effectivement, ça peut être considéré comme un roman, mais c'est quand même le récit aussi d'un certain nombre d'événements qu'Antoine de Saint-Exupéry a vécu. Et ça rejoint, quand nous parlions du Sahara, le western français, ouais. Nous avions les compagnies Méharis qui jouent un peu le rôle des tuniques bleues pour les Américains. Et bien, nous avons aussi un autre mythe qui est celui de l'aéropostale, avec Mermoz, avec Saint-Exupéry. Et la grande peur, justement, ce qui est arrivé à l'auteur du Petit Prince, c'est de tomber au milieu de ce désert, au risque, en particulier en Mauritanie, d'être fait prisonnier par les groupes locaux et d'être parfois malmené, sinon tué, ou en tout cas attendre éventuellement une rançon avant d'être rendu. Comme quoi, finalement, la prise d'otage n'est pas quelque chose de récent au Sahara.
Ouais. D'autres auteurs, d'autres écrivains ou peintres ont été inspirés par ce désert. Guy de Maupassant, il avait noté « Dès qu'on a mis le pied sur cette terre africaine, un besoin singulier vous envahit, celui d'aller plus loin, au sud ». Est-ce qu'il est allé très loin, Guy de Maupassant ?
Il n'est pas allé très loin, Maupassant. Il est allé au sud de l'Algérie, déjà occupée par les débuts de la colonisation. Et puis après, vous avez Eugène Fromentin, le ouais. peintre, qui aussi, même s'il parle du Sahara, reste aux franges du Sahara. Et puis quelques autres qui ont suivi et qui sont allés plus loin. Et le grand écrivain, en quelque sorte, qui a fait aussi que le Sahara ait eu un grand écho auprès des lecteurs français, c'est Pierre Benoît avec l'Atlantide. Mmh. Parce que là, on combinait deux choses. On combinait une géographie inconnue encore, ou mal connue, celle du Sahara, celle du centre du Sahara, et puis une figure féminine, la reine Antinéa. Et donc on combinait deux imaginaires, un imaginaire quelque peu érotique, ce qui est quand même toute l'histoire de l'Atlantide, et puis un imaginaire géographique. Et les films qui ont été faits en prenant le thème de l'Atlantide ont participer de cet engouement général, un peu disparu aujourd'hui pour des raisons qu'on évoquera peut-être, mais qui a été quand même extraordinaire entre les deux guerres mondiales et après la Seconde Guerre mondiale, jusque disons au début du Paris-Dakar, par exemple. Le Paris-Dakar est finalement la dernière trace encore médiatique forte de ce long imaginaire européen sur le Sahara. Ouais.
Alors, les explorateurs européens, occidentaux, se sont intéressés relativement tard à ce Sahara, à l'Afrique en général, alors qu'ils connaissaient déjà l'Asie, qu'on s'était déjà aventuré sur ces terres. Pour le Sahara, on a attendu.
On a eu un moment où nous sommes, à l'époque médiévale par exemple, en tant qu'Occident, très intéressés au Sahara, parce que de l'autre côté du Sahara, vous aviez de l'or qui arrivait. C'était l'or du Soudan qui n'arrivait en Méditerranée que par les grandes caravanes. Et cet or du Soudan, à un moment, l'Occident, les Portugais en particulier, ont rêvé de couper le robinet en quelque sorte et d'essayer par la côte mauritanienne d'interrompre ce trafic aux mains des grandes caravanes musulmanes. Mais finalement, évidemment, ces caravanes de l'islam n'ont pas laissé passer les Occidentaux à ce moment-là. Et l'Occident a trouvé son or ailleurs, c'est-à-dire en Amérique à partir du XVIe siècle. Donc, traverser le Sahara avec beaucoup moins d'intérêt puisque, bon, il arrivait toujours suffisamment d'ivoire ou de produits divers, mais l'or, on s'abreuvait ailleurs. Et c'est seulement à partir du début du 19e, en particulier pour des raisons, je dirais presque idéologiques. C'est les sociétés londoniennes de lutte contre l'esclavage qui voulaient mettre fin aux pratiques esclavagistes du monde musulman. On voit très bien aussi ce qu'il peut y avoir derrière. Mais en tout cas, dans le Sahara, la boussole a précédé le fusil. C'est-à-dire vraiment, les explorateurs sont allés avec un certain nombre de buts qui n'étaient pas directement en lien avec une colonisation qu'on inventait ou qu'on considérait d'autant moins importante ou nécessaire qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver dans ces espaces désertiques.
À tort, on pensait ça à tort. On l'a compris avec l'introduction, en parlant du plus grand musée à ciel ouvert du monde. Il y avait des tas de choses à trouver et à voir.
Alors là, on a déjà des descriptions de ces gravures et de ces peintures, un petit peu effleurées par ces explorateurs du 19e siècle, mais ils n'étaient pas au courant, ils n'interrogeaient pas cette longue histoire. C'est plus tard, évidemment, dans les années 1950, qu'on a commencé d'une part à s'intéresser à cette longue histoire et aussi à voir tout ce que le Sahara pouvait contenir, en particulier en hydrocarbures. Mais ça, c'est une autre
histoire. Alors là, effectivement, là, on arrive dans une époque plus contemporaine. Mais restons encore au 19e siècle avec ces premiers explorateurs qui s'intéressent et vraiment avec une curiosité à ce lieu, aux peuples qui y vivent. Parmi eux, il y a Heinrich Barth, qui est un Allemand, premier scientifique allemand envoyé par l'African Association pour envoyé, un vrai scientifique, extrait de l'un de ses récits.
J'espérais encore apercevoir bientôt notre caravane. Je crus même un moment distinguer dans l'éloignement un convoi de chameaux. Mais c'était une illusion. Le soleil baissait et il me fallait songer à savoir où passer la nuit. Je voulais faire du feu pour indiquer ma présence à mes compagnons, mais la force me manqua pour réunir un peu de bois. Je sentais comme une fièvre s'emparer de moi. Je me couchai, presque sans connaissance. Au bout de 2 heures, je me levai et regardai autour de moi. J'aperçus à quelque distance un targhi qui arrivait lentement en regardant de tous côtés. D'une voix éteinte, je pus encore lui crier « Aman ! Aman ! De l'eau ! De l'eau ! » Ce fut avec une joie sans nom que je l'entendis aussitôt me répondre « Iwa ! Iwa ! » En quelques instants, mon sauveur se trouvait à mes côtés, me lavant et me bassinant la tête, tandis que je lui disais instinctivement à plusieurs reprises « Alhamdulillah ! Alhamdulillah ! »
Lecture d'un extrait de Fou du désert, livre de Heinrich Barth. C'était lu par Jean-Luc de Baptiste sur France Culture en 2003. C'est une des figures de l'explorateur, ce Heinrich Barth. Il a découvert énormément de choses. Il y a risqué sa vie, on l'entend. Là, ce sont des Touaregs qui, in extremis, lui ont sauvé la vie alors qu'il risquait de mourir.
Tous les explorateurs de ce 19e siècle risquent incontestablement leur vie. Ils sont seuls, ils sont isolés, peuvent être en butte à des présences hostiles, être victimes de la faim, de la soif, etc. Ils sont quand même relativement démunis. Et c'est vrai que Heinrich Barth appartient à cette tradition allemande qu'on oublie parfois sur l'exploration et la connaissance du Sahara avec d'autres comme Rawls, Nachtigall, etc., qui en général, du reste, travaillaient plutôt ou étaient subventionnés, pourrait-on dire, par rapport à leurs expéditions à la Société londonienne royale de géographie de Londres. Mais il y a aussi les Français qu'il ne faut pas oublier. Oui. Chacun de ces Français, il y a une confrontation en quelque sorte anglaise, française et allemande. Et l'un des objectifs, c'est être le premier à aller à Tombouctou et surtout à en revenir. Mmh. Le premier a été un Anglais, mais le seul... Mais massacré au sortir de Tombouctou, mais René Caillé, l'un des grands explorateurs français de cette partie du monde, est le premier qui a réussi à se rendre dans cette ville soi-disant interdite de Tombouctou, qui était devenue un mythe depuis la fin du Moyen-Âge, et à en revenir. Et le texte qu'il fait, les gravures qu'il va le faire à son retour en France, vont être un succès de librairie absolument extraordinaire. Il rêvait du reste d'y repartir, mais il va mourir en France. Mais on a toute une lignée comme ça d'explorateurs français. L'un de ceux qui me semble aussi intéressant, totalement oublié aujourd'hui, qui a surtout exploré la Mauritanie, qui s'appelait Camille Douls, et qui disait textuellement que le Sahara était une comme une maîtresse odieuse et adorée. Et je pense que ce côté un petit peu conceptuel de cet espace, de ces explorateurs qui partaient à la conquête de quelque chose de totalement fascinant pour eux, mais eux-mêmes étaient des personnages extrêmement médiatiques. Camille Douls, par exemple, est photographié dans le studio de Nadar, le grand photographe, fait partie des people de l'époque. Oui. Quoi. Vraiment, les gens qui sont importants, ce sont ces explorateurs.
Alors, qu'est-ce qu'ils allaient chercher là-bas ? La gloire, la reconnaissance, c'était une façon de se mettre en avant. Ils avaient cette curiosité en eux.
Je pense qu'ils vont chercher effectivement la connaissance. Il ne faut jamais oublier que la géographie est la grande science du XIXe siècle. Elle a servi à beaucoup de choses, y compris à la colonisation. Mais cette espèce de soif, de curiosité absolue de l'Europe de l'époque doit être vraiment prise en compte pour comprendre ce mouvement. Alors, comme vous le disiez, c'est le monde entier qui va être concerné. Ouais. Mais le Sahara était encore l'une des zones les moins connues. On connaissait assez bien les parcours maritimes à travers le monde, mais traverser le grand désert restait vraiment une aventure.
Ouais, nous allons nous intéresser plus particulièrement au peuple du désert du Sahara dans un instant, les Bédouins, les Touaregs ou encore les Toubous. C'était Allo Maude qui chantait Wherever sur France Inter.
Oh, regarde, c'est autre chose. La fin de l'hiver ramène, comme chaque année depuis des siècles et peut-être des millénaires, le rassemblement et le départ vers les terres du sud de la fameuse caravane du sel. À dos de chameau, les blocs de sel gêne, dont le poids atteint quelquefois 100 kilos, sont amarrés. Et tout au long de la longue route qui les mènera du centre du Sahara vers le centre de l'Afrique, la caravane s'augmentera de tous les clans qui la rejoindront à point nommé. Long voyage qui s'étire sur des milliers de kilomètres de désert. Long voyage qui dure des mois et des mois. Long voyage étrange dans notre temps de mécanisation. Une image de légende au XXe siècle, la caravane du sel.
Et la caravane du temps d'un bivouac traverse le Sahara et son histoire en compagnie de l'historien Michel Pierre. L'archive que nous venons d'entendre date de 1948, c'était un extrait des actualités françaises. Ça existe encore, Michel Pierre, les caravanes de sel, du sel aujourd'hui ?
Oui, ces grandes caravanes de sel, enfin ce mouvement qu'on appelait l'Azalaï du reste, et qui transportait d'une partie du Sahara à l'autre, dans plusieurs endroits du reste. C'est ce sel absolument indispensable à la vie. Hein. Il n'y a pas de vie au Sahara sans l'eau et sans le sel. Aujourd'hui, ça existe encore un tout petit peu, mais la mécanisation ou le progrès qu'évoque le journaliste à un moment a fini par l'emporter. Aujourd'hui, sur les rives du Niger, le sel venu parfois des salines occidentales ou européennes coûte moins cher que celui amené par la Zalaï, même si un mouvement existe encore de nos jours. Mais c'était quelque chose d'absolument éprouvant, d'une part pour ceux et celles qui arrachaient ce sel aux salines du désert, pour ceux qui le transportaient, c'était évidemment, cela revenait régulièrement parce que ça faisait des images extraordinaires pour les actualités en noir et blanc de l'époque. Mais aujourd'hui, heureusement, les choses ont un peu changé. Ouais.
Le Sahara, c'est encore un lieu de commerce aujourd'hui ou finalement il n'y a plus lieu d'échanger?
Ah oui, on commerce. Alors certains appellent ça des trafics, mais on appelle ça aussi du commerce. Alors ça touche aussi bien à la cigarette de contrebande qu'à la drogue, mais à plein d'autres choses. À un moment, lorsque la Libye de Kadhafi existait, les supermarchés libyens, par exemple, offraient vraiment tous les produits possibles et imaginables, et une partie de ces produits irriguait toute l'Afrique, non plus par caravane chamelière, mais par camion, par 4x4. Oui, les routes, les anciennes routes caravanières ou de nouvelles sont encore aujourd'hui parcourues d'une circulation incessante.
Alors, si on compare le Sahara d'aujourd'hui au Sahara de 600 des années, voilà, du siècle, du 7e siècle, où cette grande islamisation, hein, où au contraire, là, on est un peu dans une phase de colonisation de cette zone. On pourrait dire qu'aujourd'hui, ça s'est un peu vidé, ou finalement, il y a toujours eu une activité humaine sur cette terre.
Il y a toujours eu une activité humaine, mais nous l'imaginons souvent par l'image de la caravane. C'est un peu oublié l'économie d'oasis, qui permet quand même à des populations parfois relativement importantes de vivre et de survivre, par la culture du palmier dattier, par tout ce qui peut aussi se cultiver à l'ombre de ces arbres. Donc on a toujours eu une économie des oasis sans laquelle l'économie caravanière n'est pas possible. Si vous n'avez pas des oasis qui sont, comme leur nom l'indique, des moments où l'on peut se reposer après tant de journées de marche, vous n'avez pas de caravane. Et cette présence humaine qui a été toujours là, aujourd'hui, elle devient de plus en plus conséquente, de plus en plus importante. C'est assez hallucinant de se rendre compte aujourd'hui de l'urbanisation du Sahara. Alors, considéré toujours dans la zone Sahara-Sahel. Et il faut imaginer qu'une ville comme Nouakchott, par exemple, aujourd'hui, dépasse le million d'habitants. Nouakchott est une ville qui a été créée pour être la capitale de la Mauritanie en 1958, dont on imaginait au maximum qu'elle ferait 200 000 habitants au 21e ou au 22e siècle. Aujourd'hui, vous avez là 1 million de personnes, le tiers de la population de la Mauritanie. Tamanrasset, connu par la présence de Charles de Foucault, toujours notre mythologie française par rapport au Sahara. Tamanrasset, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 habitants. Au début du XXe siècle, à l'époque de Charles de Foucault, c'est 28 habitants. 100 000 aujourd'hui. Agadez, c'est la même chose. Donc vous avez dans toute cette zone des villes monstrueuses, en quelque sorte, qui se sont créées, qui se développent de manière souvent anarchique, extrêmement difficilement. Mm-hmm. Mais ce phénomène urbain appartient à l'histoire territoire aujourd'hui du Sahara, qui connaît en plus une croissance démographique totalement presque angoissante et stupéfiante. Enfin, au Niger ou au Mali aujourd'hui, vous avez 6 à 7 enfants par femme que l'on n'imaginait pas. On n'imaginait pas ce taux de fécondité ou cette explosion démographique de cette partie du monde qui manque quand même de ressources et qui est un réel problème qui concerne le développement et qui entraîne les problèmes de malnutrition, d'accès à l'eau, etc.
Alors là, on est avec des populations sédentaires hein, dont vous nous parlez. Il y a aussi ce que l'on appelle les nomades du désert. Alors, il y a plusieurs catégories, mais si j'ai bien compris, ce sont les Occidentaux qui, pour s'y retrouver, ont un peu créé ces catégories de Touareg, Toubou ou encore
les morts.
Oui.
Oui. En fait, oui et non, parce que ce ne sont pas les mêmes groupes humains. Les morts, par exemple, viennent plutôt, alors sur un fond berbère, de migrations qui sont arrivées du nord, c'est-à-dire du Maroc d'aujourd'hui. Le monde touareg est un monde essentiellement berbère et berbérophone, avec sa langue particulière, son écriture, ses mœurs, sa culture, ses civilisations, et le monde Toubou du Tchad est un monde qui appartient par certains côtés plutôt à l'Afrique noire et qui concerne sans doute des populations qui sont là depuis très 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 longtemps dans le Sahara. Donc ça, ce sont des divisions qui ont été décrites par les voyageurs occidentaux, mais qui correspondent quand même à des réalités, mais qui simplement nous dégagent trois grands ensembles, plus l'ensemble bédouin,
plus les bédouins
vers le Nil, mais à l'intérieur de c'est comme l'Europe ou toute autre grande surface géographique au monde. Vous avez des grands ensembles et puis vous avez des groupes humains qui vont se différencier par les origines, par les ancêtres, par l'immigration. Ils vont commencer dans tel ou tel endroit, pour certains d'entre eux, du Sahara, puis migrer vers d'autres. La sédentarisation dont vous parlez dans les villes, elle est composée de populations qui ont beaucoup bougé, qui ont beaucoup migré, et certaines sont restées, mais enfin, c'est un véritable brassage, le Sahara.
Ça veut dire que, justement, ces nomades, Touareg, Bédouins, Toubou, il y en a encore qui sont en mouvement perpétuel, où ils se sont tous sédentarisés.
Ah non, vous avez toujours un mouvement. On oublie que le dromadaire est une viande de boucherie, par exemple.
Oui.
Donc les grands troupeaux de dromadaires ou de chameaux, on peut utiliser les deux termes, que vous trouvez par exemple au Tchad, vont alimenter les marchés des grandes villes dont nous parlions. Donc vous avez toujours un élevage qui implique évidemment une forme de nomadisme. L'élevage en question, il n'est pas possible si vous n'amenez pas les troupeaux vers les lieux de pâturage qui évoluent en fonction des saisons. Donc l'économie du nomadisme lié à l'élevage est toujours présente, toujours vivace dans une grande partie du Sahara.
Je vous propose d'écouter quelqu'un qui a accompagné ces caravanes de nomades, Théodore Monod, au sujet donc de la vie dans le désert et de ce qu'il a appris aux côtés des nomades qu'il a côtoyer.
C'est une école d'humilité, d'abord. On ne commande plus. On subit les exigences de la nature, etc. C'est elle qui commande, c'est plus vous. Pour le temps, par exemple. Nous sommes toujours pressés, nous, les Européens, toujours bousculés. On veut prendre un chameau comme on prend le train à 10h45 ou à 8h27. Mais non, c'est pas comme ça, les bédouins. Mais si les chameaux n'arrivent pas aujourd'hui, ben ils arriveront demain. Et s'ils n'arrivent pas demain, ben peut-être qu'ils seront là après-demain. C'est eux qui ont raison, en réalité. Et puis alors, ça, c'est une leçon de frugalité aussi. Frugalité, on s'aperçoit là que le nécessaire représente peu de choses. On peut simplifier à l'extrême un régime alimentaire, par exemple, avec du riz, du thé, du sucre et quelques dattes, quelques arachides peut-être aussi, mais c'est pas désagréable. On peut faire un mois de route, naturellement. Et puis alors aussi, il y a une autre chose qui est simplifiée dans les déserts. Ici, le moindre bobo nous précipite chez le pharmacien, chez l'apothicaire. Mais là-bas, on traite les choses par le mépris. On a mal aux pieds, ben oui, on a mal aux pieds, mais il faut bien continuer à marcher, tant pis. S'il y a une ampoule, ben, et un jour ou l'autre, elle disparaîtra.
Théodore Monod, hein, qui il y a un peu ce travail d'asset, hein, quand on va dans le désert, on apprend à se contenter de peu. Ce serait toujours aussi vrai, ce qu'il a dû dire dans les années 90, ce serait toujours aussi vrai aujourd'hui?
Oui, ça peut l'être si on choisit de le faire. Il faut bien voir aussi que Théodore Monod, grand protestant devant l'Éternel, ouais, c'est le cas de le dire, était aussi dans cette démarche d'ascétisme et j'allais dire de mysticisme. Pour l'Occident, le Sahara a été aussi lié à une forme de mystique. Et l'humilité dont il parlait est et parfois pour certains voyageurs, une humilité de l'orgueil, c'est-à-dire aussi se dépasser, se contenter de l'essentiel. Mais il a tout à fait raison sur le temps, par exemple, y compris encore aujourd'hui, quand on peut faire des méharés, c'est encore possible.
Donc ce sont des traversées de désert.
Des traversées plus ou moins longues avec les dromadaires, mais et comme vous les laissez la nuit pour aller pâturer de ci de là, eh bien vous savez jamais si vous allez partir à 6h du matin ou à l'extrême vers 9h parce que il va falloir aller récupérer les dromadaires qui ont quelque peu bougé pendant la nuit.
Vous allez répondre dans un instant aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. Suite et fin de notre discussion sur le Sahara avec l'historien Michel Pierre, le temps d'un bivouac sur France Inter. Saul Sinkable, c'était Sève d'Alvisa sur France Inter.
Je me résume. L'Atlantide, ce vieux rêve de l'humanité, ce continent englouti, cette civilisation puissante, nul géographe ne saurait en déterminer avec certitude l'emplacement. Pourtant, ce monde disparu a existé. Que dis-je ? Il existe peut-être encore. Les antiques traditions, les écrits des initiés, ne nous permettent pas de douter de la réalité de ce rêve. Nous avons découvert Troie. Nous avons ramené au jour les cités phéniciennes et égyptiennes. Pourquoi ne retrouverions-nous pas l'Atlantide? Les hommes remontent toujours à la source de leur songe. On a soutenu cette hypothèse que l'Atlantide avait été non pas engloutie par l'océan, mais submergée par les sables du Sahara. Hypothèse qui repose sur des arguments solides. Combien de caravanes perdues, d'avions disparus, d'hommes égarés sans laisser de traces? Il y a aujourd'hui encore dans le Sahara des contrées que nul Européen n'a pu atteindre, dont nul Européen, du moins, n'est jamais revenu. Ne peut-on imaginer que l'Atlantide n'a pas été engloutie tout entière, qu'elle émerge en partie, qu'elle sert de refuge, de centre de résistance et de retraite aux tribus de l'extrême sud, qu'elle conserve des communications avec la surface, que ce n'est pas une chimère cherchée.
Qu'est-ce qu'il y a?
Cet homme a raison.
Hein?
Parfaitement. L'Atlantide a été engloutie par le Sahara, c'est la vérité.
Bon, comment peux-tu le savoir?
Je le sais parce que j'y suis allé, je le sais parce que j'ai vu.
Extrait de l'Atlantide, film de 1932, adapté du roman de Pierre Benoît. Vous l'évoquiez hein, tout à l'heure, ce mythe de l'Atlantide imaginé par Pierre Benoît, Michel Pierre, le Sahara qui est ce lieu de mythe, de légende. Imaginez que peut-être l'Atlantide n'a pas été ensevelie par les flots, mais ensevelie par le sable. Il y a un début d'hypothèse historiquement valable là-dessous?
Non, les arguments solides évoqués au début de la retransmission par la radio au début du film,
ouais.
Si je me souviens
ouais,
bien,
c'est ça,
du film. Non, ça marche pas. Mais les architectures du hogar, les personnages féminins que l'on évoquait, tout ça a généré un imaginaire qui s'est longtemps poursuivi. Hélas, non, je pense pas qu'il y ait des civilisations disparues sous les sables. Mais l'idée est restée très longtemps. On le retrouve dans des romans encore dans les années 1950-1960. Et c'est vrai que, bon, tombé du jour, quand vous avez des architectures tout à fait exceptionnelles dans les Nédis tchadiens, ou bien dans le Tassili Nadjer algérien, ou dans le nord de la Mauritanie, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. On a bien imaginé à un moment que les Touaregs, puisqu'on les évoquait, étaient des descendants des compagnons de Saint-Louis, donc des croisés. À partir du moment où Saint-Louis est mort devant Tunis, eh bien une partie de ses compagnons, de ses chevaliers chrétiens, au lieu de rentrer dans le royaume de France, sont partis vers le sud et ont donné naissance aux Touaregs. Vous avez encore tout un ensemble de livres dans les années 1930 qui échafaudent les hypothèses les plus absurdes, mais l'absurdité, ça fait la poésie.
Alors, je ne sais pas si vous trouvez que c'est une hypothèse absurde. Voici une question qui vous est posée par Élise. Faire reverdir le Sahara, il y a ce projet de ceinture verte. Qu'en pensez-vous?
Il faut tenter n'importe comment et ça bloque tout ce qui peut bloquer l'envahissement des sables ou tout ce qui peut freiner quelque peu l'aridité de cette partie du monde. Il faut l'essayer. Mmh. Oui.
Donc il s'agit de replanter des végétaux, d'essayer de réinstaller un écosystème avec des plantes qui supporteraient et qui en appelleraient d'autres pour reverdir le Sahara.
Qui peuvent déjà bloquer et qui peuvent profiter dès que nous avons un petit peu de précipitation, comme ça arrive heureusement. Parfois, il faut tout tenter. J'ai connu des régions, par exemple, y compris du Sénégal, qui sont aujourd'hui devenues d'une aridité absolue, alors qu'on y chassait le lion avec un paysage de savane il y a encore quelques décennies. Mmh. Donc vraiment, tous les efforts sont les bienvenus pour essayer de bloquer, en faisant attention au type d'arbre et à la manière de faire, parce que quelquefois, les résultats sont catastrophiques.
Qu'en est-il, vous demande Clara, qu'en est-il du tourisme qui se développe de plus en plus, met-il en danger ce désert? D'abord, est-ce que c'est vrai que le tourisme se développe de plus en plus?
Non, exagérons rien. À un moment, à la fin du siècle dernier, le tourisme s'était pas mal développé et on pouvait considérer que dans certains endroits, il mettait en cause l'économie de tel ou tel endroit. Aujourd'hui, le seul endroit vraiment où les tours opérateurs européens en général et français en particulier reviennent, c'est le nord de la Mauritanie, c'est cette zone des deux grandes villes caravanières qui étaient Chinguetti et Ouadane, où effectivement le tourisme peut revenir sans aucun problème puisque le ministère français des Affaires étrangères a changé la couleur de cette zone qui est passée d'un rouge vif qui est encore celui de l'ensemble du Sahara comme zone vraiment interdite pour se promener, mais si les tours opérateurs français reviennent dans le nord mauritanien, c'est que nous sommes dans un tourisme, en plus dans un Sahara, avec des populations qui sont encore présentes, avec une économie d'oasis qui est dynamique, et le fait que ce tourisme, qui n'est certainement pas excessif, revienne, apporte un élément à l'économie locale. Et le tourisme saharien, il faut au contraire encourager sa présence. Le tourisme n'a pas détruit grand-chose dans le Sahara, même à l'époque. Alors parfois il y avait des initiatives un petit peu excessives ou un petit peu farfelues, mais non, j'encourage vraiment à retourner au Sahara. Voilà. Par la Mauritanie.
Et si on ne veut pas y aller ou on ne peut pas y aller, il y a votre livre Sahara, le grand récit aux éditions Belin. Et puisque vous êtes là, j'en profite pour citer votre tout dernier livre, un récit historique ça s'intitule Trésor sacré, c'est aux éditions du Trésor. Alors là, vous avez joué les Indiana Jones, vous êtes parti à la recherche de reliques sacrées, c'est ça?
Oui, à la recherche du Saint Graal, par exemple, pour le trouver finalement dans la cathédrale de Valence en Espagne, où je reviens sur le Saint-Suaire de Turin, et puis quelques autres reliques aujourd'hui moins connues, comme par exemple la peau de l'âne qui a conduit le Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux, qui est dans une petite église de Vérone. C'est une autre caravane là, c'est un autre parcours.
On est ailleurs.
C'est dans l'Europe des croyances médiévales, mais telles qu'on les retrouve encore aujourd'hui. Et parfois avec des rites et des cultes que l'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire il y a comme un mouvement souterrain vis-à-vis de ces reliques qui existent toujours.
Et puisque vous êtes un homme qui fait plein de choses, vous êtes aussi impliqué dans cette jolie exposition actuellement présentée au Musée des Confluences, Hugo Pratt, Ligne d'horizon. Donc on peut aussi aller voir ça. C'est ouvert jusque quand?
Jusque mars de l'an prochain.
Donc on a encore le temps, peut y aller pendant l'été. C'est une bonne idée de sortie. Merci à vous, Michel Pierre.
Merci beaucoup.
Je présente les invités de la deuxième heure. Hein. On n'a jamais rêvé de creuser un canal dans le Sahara. Je crois que si, en plus.
Complètement.
Ouais, alors on n'a pas le temps d'en parler, mais je crois qu'on a essayé de faire un canal dans le Sahara. Nous, on a essayé en France aussi. On a réussi. C'est ce que nous allons raconter dans la deuxième partie de l'émission avec nos invités. Je vous les présente. Il y a Gwenaëlle Guerlavet et Mireille Aublin-Brière. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors avec toutes deux, vous êtes fines connaisseuses de ce canal dont je parle, le canal du Midi. Et avec vous, vous allez nous décrire cette œuvre architecturale superbe. Nous parlerons de l'histoire de sa construction et puis nous intéresserons aussi à ce champignon qui défigure ce canal, en tout cas les platanes qui le bordent. Sur les 42 000 platanes qu'il y avait, la moitié ont dû être abattues. Vous nous direz pourquoi et puis nous verrons à quoi ressemblera le canal à l'avenir. A tout de suite pour un bivouac sur les berges du canal du Midi.